Et au bout d'un moment, quand tu vois qu'il est 3h du mat, 4h, ça vaut pas le coup de dormir. Café, une bonne clope et je dormirai mieux le lendemain.
En un peu plus de 15 ans, la petite commune rurale de Clisson, à 30 minutes au sud de Nantes, est devenue la ville la plus rock de France. Depuis 2006, elle accueille sur ses terres, au milieu des vignes, ce qui est devenu l'un des plus gros festivals de métal européen, le Hellfest. Traditionnellement, le festival se tient chaque année sur 3 jours, aux alentours du 21 juin. En 2022, après 2 ans d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19, l'équipe de production a imaginé une édition exceptionnelle. 2 fois plus longue, avec 2 fois plus de groupes, 2 fois plus de billets vendus, enfin 2 fois plus de tout. C'est l'édition du siècle. Avec Miguel, qui s'occupe de la prise de son, nous nous sommes glissés dans les coulisses du festival à la rencontre de celles et ceux qui font tourner cette très grosse machine. Aujourd'hui, nous sommes dans la zone technique et c'est Benjamin qui commence la visite.
Là, on est dans la cour de la régie du festival. En fait, là, c'est le cœur, vraiment. Et c'est, là, il y a beaucoup de décisions qui se prennent. Et là, il y a la direction technique. Là-bas, on a la régie générale. Derrière, on a les chefs bénévoles qui gèrent toutes les équipes de Warrior. Donc, tout est rassemblé au même endroit pour que les décisions, ça aille vite. D'un bureau à l'autre, là, on passe d'un Algeco à l'autre, on peut prendre une décision très vite. Et du coup, là, ouais, c'est le cœur névralgique du festival.
Mais avant d'entrer dans le cœur du festival, on est d'abord accueilli par Julie et ses collègues.
On est dans la clé régie. La clé régie, c'est un bureau qui accueille toute personne qui arrive sur le festival. Enfin, comme vous avez pu le voir, c'est un des premiers dans lequel vous arrivez. Donc tout ce qui est technicien passe par chez nous. Et après, ici, on peut répondre à tout. Ça peut être des questions simples comme genre, je sais pas, j'ai besoin de scotch, oui, je te le donne. Comme il y a la livraison des groupes électrogènes à Gréco, et là nous on va contacter la personne qui pourra répondre à la question. Et on fait un filtre sur la zone de production parce qu'ils sont tout le temps dérangés, et en fait ça fait aussi un petit peu office de, bah, d'accueil de base comme on peut trouver en entreprise quoi. On fait aussi toute la journée un accueil gourmand, c'est-à-dire que les gens trouveront toujours ici du café, du thé, un petit peu à manger, de l'eau fraîche et de quoi se sustenter.
Ici, on trouve aussi toutes les clés du festival. Il y en a des centaines et des centaines rangées dans de très grandes armoires à clés. Et Julie, par exemple, elle s'occupe de celle de l'hébergement des techniciens.
Parce que maintenant, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas toutes les clés. Là, j'ai encore rien qui est rentré. Là, j'ai un tableau pour tout ce qui est caravane, donc parce qu'on héberge des gens dans des caravanes. Il y a le tableau de certaines zones qui ne sont pas ici parce qu'ils ont été déjà dispatchés. Donc, il y en a encore plein. C'est fastidieux, les clés.
C'est la galère.
C'est fastidieux parce qu'il faut savoir où elles vont quand la personne elle arrive. Parce que par exemple, un électro qui va venir poser un container, il va dire tiens, je veux la clé de ça. Il faut savoir où elle est. Et en fonction de ça, il faut quand même connaître le site, savoir dans la zone quelle clé il veut. Et parfois, la personne qui vient elle-même ne sait pas trop ce qu'elle veut. Donc il faut tout connaître.
Pendant le festival, la zone technique ne dort jamais. Chaque nuit, des équipes nettoient, réparent et remettent tout en ordre de marche pour que le site soit prêt à ouvrir au public à 9h30 chaque matin. L'équipe technique d'astreinte s'appelle Urbano. Elle est composée de Valentin, Igor, Simon, Benjamin et Johan. Ce sont des sortes de factotums du rock, des hommes à tout faire, pendus à leur toki, toujours prêts à sauter dans une voiturette de golf pour réparer tout ce qui pourrait tomber en panne. Le démarrage de cette édition 2022 a été assez chargé pour Valentin et ses camarades. Après 2 ans d'arrêt, il a fallu retrouver ses marques. Les conditions météo ont été un peu difficiles. Il a fait d'abord très chaud, plus de 40 degrés. Ensuite, il y a eu du vent et après de la pluie. Et vous vous souvenez du parking géant de 12 000 places, le plus grand parking après Disneyland Paris? Eh bien, il s'est retrouvé complet dès le premier jour.
Et vu qu'il était plein, il fallait trouver une solution. Donc on a dû aller ouvrir un autre parking en urgence. On s'est retrouvé à 4, plein soleil, 16 heures, horrible, 3 heures de sommeil toujours. À 4, planter des piquets pendant qu'il y a des voitures qui se garaient. Avec une équipe bénévole, là, les Guardians, ceux qui gèrent les parkings, c'est des fous furieux, j'étais bluffé quoi. Eux, ils gèrent 12 000 personnes qui arrivent sans problème, sourire, ils rangent des gens, enfin c'est trop bien. Donc ils nous ont bien aidés, mais on était quand même que 4 à planter des piquets. Après, il fallait rentrer une cuve à fuel sur le site du festival en public. Enfin, et du coup, c'était long. Elle était très très longue cette journée. C'était pas cool. Hier, c'était plus léger quand même. Parce qu'on est d'astreinte, mais normalement, tout se passe bien en fait. On n'a pas. Si tout va bien. On est bloqué dans l'Algeco, on boit des cafés.
C'est un fourgon, c'est quoi ?
Mais attends, t'arrêtes de gueuler René.
On est parti du principe que plus on rit, plus ce sera efficace. Et ça marche pas mal.
C'est vrai que plus on rigole,
Plus on rigole.
Plus on rigole.
C'est vrai, hein. Parce que vite, on passe à une grosse rigolade. Non, mais quand il y a une bonne ambiance, tout de suite, on met plus de cœur.
Les Urbanos, c'est l'histoire d'une bande de copains d'enfance qui avait décidé d'organiser un festival de hip-hop en Vendée, à quelques kilomètres de Clisson. Sauf que le festival a connu une année difficile et l'association s'est retrouvée en déficit. Pour l'aider à le combler, Hellfest Productions leur a proposé une aide financière en échange d'une équipe de bénévoles. Et depuis, 30 urbanos environ sont mobilisés chaque année pour le montage et le démontage du festival.
Et après aussi, il y a des histoires d'amitié qui s'est créée un peu entre Urbano et toute l'équipe Hellfest. Quoi. Alors c'est drôle en plus, hein, parce que nous, on n'est pas du tout... Enfin, maintenant, on l'est un peu plus. On n'était pas sensible forcément au rock metal, quoi, mais on a appris à découvrir des choses... plutôt intéressante.
Il arrive régulièrement qu'après plusieurs années, des bénévoles intègrent l'équipe salariée du Hellfest. C'est ce qui est arrivé à une partie des urbanos. Aujourd'hui, ils épaulent notamment Victor à la régie générale et la direction technique du festival.
Non, mais en gros, lorsqu'on a commencé le partenariat avec Urbano, c'était avant tout des chefs d'équipe de bénévoles. Il s'avérait que les bénévoles urbanos, ils savaient tout faire. Ils bossaient beaucoup avec la régie du festival directement. Ça faisait un peu une équipe d'intervention supplémentaire à celle qui existait déjà avec Didier sur le festival Les Warriors. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte avec Pete, qui est le directeur technique, qu'on aurait bien eu besoin de nos chefs d'équipe urbanos aussi pendant les exploitations, parce que à deux, c'est dur quand même de tenir tout ce temps-là sur de telles amplitudes horaires. Et désormais, à chaque festival, on a un quatuor d'urbano qui viennent nous aider, qui sont là en soutien et qui font finalement partie de la DT avec nous. Quoi. Donc on a plusieurs cerveaux, là où on en avait que deux avant. Des stats au derrière.
Sur confiance réciproque, on a entre différents acteurs. Un but, c'est
que c'est une bonne coordination.
Alors nous, c'est trois mots, c'est rapidité, efficacité,
sécurité. Mais oui, voilà, c'est une question d'ambiance, c'est une question de confiance, puis d'amitié aussi quand même, parce que là, on est tous très bons amis. On se voit le reste de l'année, on sait qu'on peut laisser la taille aux autres et puis qu'elle sera bien faite.
La taille.
Oui, je me suis dit que c'est le moment de la placer.
C'est l'expression vendéenne pour dire le travail à faire, en gros.
Un peu urbaine.
Ben oui, Dame Bondiou, on est des paysans de la culture.
C'est vrai que tu l'avais pas encore mis, mais c'est ça.
Les paysans de la culture.
Oui, tout à fait.
Parce que, mine de rien, on regarde tout le temps la météo, un peu comme
des lumières,
pour savoir si les bâches vont tomber, s'il va y avoir du vent pour les scènes, c'est important, si les festivaliers vont être mouillés, s'il va faire 50 degrés, s'il va faire mettre des clims.
Ce genre d'intervention, par exemple.
Ce matin, la mission, c'est d'aller remonter des tentes au niveau de la pose bracelet à l'entrée du site. Elles avaient été démontées la veille à cause du vent et elles doivent être remontées, cette fois-ci, à cause de la pluie.
Oh, on lui décalquait la gueule.
C'est un gros effort, on s'est engueulé fort il y a deux semaines.
Ouais, à l'effort, faut que ça pète comme le roi.
Bah, je voulais que tu t'exprimes, tu vois, relâche ta colère un peu, Didier, le petit monstre que tu es en toi.
T'as pas un truc à faire dans ton bureau, là?
Hein? Mets la main à la
patte. Non, moi, les trucs de mec, c'est pas fait pour moi. Les trucs d'homme,
c'est pas un truc de mec.
Si,
c'est un truc de mec qui bosse.
Allez, depuis quand je bosse.
Allez, viens là.
Très bien.
Didier, c'est le régisseur général du site. Il s'occupe de la construction et de l'entretien de la ville du métal. Et son boulot, c'est lui qui le dit, c'est de gérer des merdes.
Quand je dis gérer des merdes, c'est-à-dire les dernières minutes, les plans RH, trouver l'idée, là, on est au pied du mur, genre on ouvre demain, comme c'était arrivé en 2016, la boue, voilà, moi j'avais un peu prévu de 3 jours, j'ai trouvé des solutions là-dessus, je suis pas mauvais. Ouais.
L'édition 2007 dont parle Didier, c'est l'année de la boue, qu'on appelle aussi l'édition Woodstock. Cette année-là, dès le jeudi soir, avant même l'ouverture des portes, des trombes d'eau se sont abattues sur Clisson. Un déluge. Le site, le camping et les parkings se sont transformés en champs de boue, mais le festival a quand même ouvert ses portes.
C'est bonne merde. Au moins, t'arrives, t'es speed. Et voilà, et tu sais que tu vas pas trop dormir. Hein. T'oublies que t'as mal aux jambes, t'oublies que t'as pas dormi pendant un mois, t'oublies tout. Et ça fait partie du jeu, donc... Après, quand on prend de l'âge, ça nous tire un peu plus sur la gueule. Let's dance. Mon principe, c'est qu'il faut qu'on ouvre. Et ça, voilà, même si le bateau il a des fuites, il faut l'amener à port. Come down, ça. C'est un ancien militaire, donc j'ai été dressé comme ça. À un moment donné, on est au front, et après on compte les morts. Et voilà.
Le festival fonctionne grâce à des milliers de bénévoles. On les trouve un peu partout, derrière les bars, sur les parkings, au nettoyage, à la pose bracelet, dans l'espace VIP et aussi dans la zone technique. Chaque responsable a créé son équipe et chaque équipe a son petit nom. Ceux qui aident Didier s'appellent les Warriors, les guerriers en anglais, ce qui semble assez logique pour un ancien militaire. Tout a commencé en 2007, cette fameuse année sous la pluie et dans la boue.
Voilà, le festival a été pris de court. Et j'avais rencontré à l'époque des étudiants métalleux un peu ivres et tout, qui m'ont donné un coup de main, donc c'était rigolo, nous on était couverts de boue. Donc ces gens-là, que je connaissais pas du tout, l'année d'après, donc quand j'ai repris l'histoire, ils m'ont reconnu. Et ils m'ont filé des numéros de téléphone et tout. J'ai dit tiens, pourquoi pas, il y en a qui m'ont rappelé, qui ont insisté. C'est comme ça, il y a le mouvement des Warriors, des gens qui prenaient 15 jours, 3 semaines de temps pour être bénévoles parce qu'ils étaient fans de métal.
Au fur et à mesure, Didier a constitué sa petite équipe de guerriers. Et aujourd'hui, ils vivent et travaillent avec lui sur le site pendant des mois, du montage jusqu'au démontage.
J'ai ramené beaucoup de gens qui travaillent dans des squads d'artistes. Et moi, j'aime beaucoup ces milieux-là, donc c'est les milieux que j'ai fréquentés. Donc... De l'étudiant bien propre sur lui qui adore le métal, on est arrivé à des gens qui ont des gueules, des troncs, des caractériels, qui vont vivre en caravane pendant 2 mois. C'est plutôt bien et c'est pareil, ils apprennent à tout faire et pour certains, ça devient un sacerdoce et un futur métier, voilà. Mais ça envoie. Et s'il y a un souci, je sais que je peux compter sur eux. Après, il faut les gérer. Voilà. D'autres questions ?
Ouais. Ah. Tu fais quoi le reste de l'année ?
Ça fait 35 ans que je suis magnétiseur, je soigne les gens. Donc je passe beaucoup de temps à soigner. Aussi ici, quand j'en ai l'occasion, quand je ne suis pas trop crevé. Mais oui, je passe beaucoup de temps dans le milieu du soin ésotérique, psycho aussi. Ça, c'est Didier. Mais ça, oui, ça, c'est l'envers du décor chez moi. Mais je fais ça depuis 35 ans.
Donc, tu as une double vie.
Bon, une triple.
Qu'est-ce qui n'a pas de poste pour l'instant ? Un quart de tour, s'il vous plaît. Un quart de tour. Et allez, étiquette. Simon, un quart de tour, toi aussi.
Un autre personnage incontournable dans la zone technique, c'est Guillaume Lepit. Il a fait ses armes au Festival Interceltique de Lorient et à la Coupe de l'América avant de devenir le directeur technique du festival. Il s'occupe de tout ce qui est lié aux scènes et au montage des structures. Quand j'ai cherché à comprendre en quoi consistait concrètement son boulot, on m'a dit « Cherche pas, lui, c'est le mec qui s'occupe des trucs compliqués. »
Ah oui, bah, tout est compliqué, de toute façon, sur un événement comme ça... C'est un des plus gros, on est le plus gros événement de France, et on a le plus de scènes, nous qui avons le plus grand nombre de scènes sur un festival. Donc beaucoup de projets à gérer en même temps, surtout cette année où on a eu le nouveau parking, les nouvelles tours d'Ila et tout ça, et plus les deux week-ends à gérer, c'est assez compliqué. Même au niveau des artistes aussi, parce que je sais même plus à combien de groupes on est. Ils ont tous des demandes particulières, surtout que c'est la reprise de tout post-Covid. Donc ils veulent tous faire des shows énormes pour le plus gros festival de France.
Même si la machine Hellfest est hyper bien huilée, ça ne se passe évidemment jamais comme prévu. Et un des impondérables lorsqu'on organise un festival en plein air, c'est la météo. Comme le premier week-end s'est déroulé sous 40 degrés, le feu d'artifice qui devait être tiré le samedi soir a dû être annulé pour des raisons de risque d'incendie. Donc, ce matin, le boulot de Guillaume, c'est de voir s'il va être possible de le tirer aujourd'hui.
Donc là, nous, on met tout en place.
Ok, mais non, mais c'est pour
que ça se fasse.
C'est pour les parkings que je t'avais appelé.
Donc là, on fait évacuer le parking quand même parce qu'il y a un bout qui est dans la zone de retombée potentielle.
D'accord.
Donc, selon les artificiers, il n'y a aucun risque. Mais conventionniste, on va quand même tout faire évacuer.
Prévenir.
Il y aura la visite, histoire que ce soit prêt bien avant la visite et qu'il voit qu'on a tout en place pour que ce soit
prêt. Je vais envoyer un message. Ça roule.
Une des particularités du Hellfest, c'est que pas mal d'équipements sont en dur et restent sur place toute l'année. D'ailleurs, le site est carrément devenu un vrai parc où les clissonnés viennent se balader le dimanche. En revanche, il y a plein de choses qui sont montées uniquement pour la période du festival, dont par exemple une structure à étages qui accueille un restaurant gastronomique et un immense espace VIP pour les mécènes, les artistes et quelques invités de marque.
Et la structure à étages, on n'est pas nombreux en France à en faire comme ça, en CTS. Donc CTS, c'est structure étante itinérante. Donc ça, c'est aussi un peu compliqué parce qu'il y a une réglementation spécifique dessus qui implique des jauges à respecter, des normes de sécurité avec du désenfumage, des agents SIAP, des anémomètres. Donc c'est un sujet un peu tendu et la commission de sécurité départementale est très vigilante dessus.
Parmi les choses qui se montent et se démontent, il y a aussi les scènes. Elles sont louées auprès d'une entreprise belge, Stageco, le leader mondial. Et quand je vous disais que Guillaume s'occupe des choses compliquées, cette année, ça n'a pas été simple de trouver des scènes, particulièrement pour les deux main stage.
Surtout deux. Deux comme ça, côte à côte, avec quasiment 30 mètres d'ouverture. Et disponible aussi pour deux week-ends. En plus, tous les festivals en Europe là, repartent de plus belle. Tout le monde cherche à récupérer le manque à gagner. Du coup, ça a été compliqué à gérer parce que les scènes qu'on avait traditionnellement n'étaient pas disponibles pour 15 jours. Du fait d'un contrat 3 semaines après nous, donc j'ai dû repasser sur les scènes qu'on avait déjà pris en 2016 pour Rammstein, qui demandait une grande charge au plafond et une grande ouverture. Mais vu que là on a Metallica, on n'avait pas forcément le choix.
Une autre dimension assez problématique pour le secteur du spectacle, ce sont les conséquences de la pandémie de Covid-19.
La Belgique, la Hollande, l'Angleterre ont été nettement moins aidés qu'en France au niveau des entreprises de spectacle. Donc ils ont eu une grosse perte de personnel, une grosse perte de compétences, beaucoup de gens qui sont partis faire autre chose. Et là, on se trouve avec des équipes un peu jeunes qui sont nettement moins formées et on a pris énormément de retard pour pouvoir les monter. Et le montage s'est vraiment finalisé, je pense, le matin de l'ouverture. Même le dernier jour, la veille de l'ouverture, je suis resté devant à driver les équipes internes à Stageco aussi pour dire non, ça faut que ce soit fini là, on verra ça à l'ouverture après derrière s'il manque une bâche, mais pour que ce soit prêt surtout côté public et pour pouvoir accueillir les artistes. Quoi. Et quand on voit des équipes qui commencent à monter de l'échafaudage penché sur 50 mètres et qui redémontent direct après parce qu'il y a un problème, on dit aïe, 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 c'est en train de mal se mettre.
Disais tout à l'heure, la zone technique du festival, c'est un monde parallèle. Alors que tout est beauté et oisiveté côté public, ici, c'est le monde des engins et des gens qui bossent. Mais il y a une oasis au royaume de la technique, c'est la guinguette de Papy.
On l'appelle Papy ici.
Bah, il paraît, pourquoi on t'appelle Papy?
Bah, parce que je suis vieux, quoi, depuis que je suis depuis 2004 dans l'aventure avec Furyfest au début et puis Hellfest maintenant, quoi. Voilà. Du coup, le surnom, c'est Papy.
La guinguette de Papy, c'est le coin détente des techniciens et des bénévoles. Le comptoir est installé dans un algéco et il y a une grande terrasse avec des transats, des parasols et des palmiers.
Exactement. Et le matin, quand il fait beau, je mets le bruit de la mer quand c'est hors exploitation, quand on est au montage. Donc les gens arrivent, ils viennent boire leur petit café, il y a la mer, il y a les mouettes.
C'est vrai?
Ah oui, carrément, oui.
En plus, il y a du sable.
Ah bah, normalement, c'est la plage ici. C'était le concept, c'était ça, de un lieu de détente, même visuel, quoi. Et les transats, les parasols, ça en fait partie, et le bruit de la mer aussi.
Alors Papy, c'est un vieux de la vieille. Il vient du Gers, où il tient un petit cabaret. Son truc à lui, c'est la rencontre. Et sa guinguette au Hellfest, c'est certainement pas un bar, c'est beaucoup plus que ça.
Ça, je dirais, c'est quoi? C'est mon côté social, moi. C'est mon côté développer l'humain, quoi. Il y a tellement de monde, faut pas oublier l'humain dans tout ça, quoi.
Tu te fais des nouveaux amis chaque année?
Chaque année. Et en plus, comme j'ai de la place dans mon lieu, j'ai 2 hectares là où j'habite, bah, y a plein de gens qui, durant l'été, passent me voir. Ils viennent voir Papy. C'est mes enfants. Hein.
T'as quel âge, Papy?
64 ans. Je suis à la retraite. Je suis à la retraite depuis un an. Tant que j'aurai la niaque de venir, bah, j'y viendrai, ouais. C'est clair. C'est clair. Ça me fait du bien, en plus. Ça m'aide à pas vieillir trop vite. À pas m'enfermer dans la vieillesse, dans le train-train, voilà. On est obligé de se dépasser un peu ici, hein. 2 mois de caravane, le bruit, voilà, amener les gens justement à se rencontrer, forcer là-dessus, voilà, à se respecter, à être poli. Le matin on se dit bonjour et on sourit, voilà, c'est important ça. Et puis les égos, expliquer aux gens que les égos on les range un peu quand même, que le type qui nettoie les chiottes, il est aussi important que celui qui éclaire la scène, ou que celui qui gère le son des grands artistes. Il n'y en a pas un qui peut aller sans l'autre. Et ça aussi, le côté de l'arrivée dans ce milieu qui est très, avec des gros égos, à équilibrer tout le monde et puis que chacun se respecte, quoi.
Eh ben, salam alaykoum, Clisson
Rock City. À suivre dans Clisson Rock City. On va repasser de l'autre côté du miroir, côté public. Nous allons vous présenter Corentin, un anthropologue qui a étudié de très près le public du Hellfest.
Tu vas à la main stage, il y a plus de monde, mais tout le monde il est sympa.
Donc, si tu mets ta ceinture à clous et ta veste à patch, eh ben, tu seras nickel pour le prochain épisode.
Clisson Rock City, saison 2.